Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La réforme du lycée, une sorte de serpent de mer dont on entend parler depuis des années sans trop croire qu'un jour on puisse le voir, mais que l'on semble aujourd'hui enfin avoir trouvé. Une réforme lancée donc par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui pourtant, loin de faire l'unanimité, est en train d'y laisser des plumes et de voir sa cote de confiance auprès des Français chuter. Alors que se passe-t-il vraiment au lycée? En quoi consiste cette réforme? Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? L'occasion également de parler de Parcoursup, logiciel miracle pour orientation dans les études supérieures, au sorte de machine à broyer inéquitable. Branle-bas de combat au lycée, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec pour nous en parler autour du plateau Anne-Sophie Langlois. Vous êtes professeure de gestion au lycée Saliège et adjointe de direction au lycée Sainte-Marie-des-Champs, tous deux à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Dominique Carsac, vous êtes président de l'Appel pour l'Académie de Toulouse, donc l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre et membre du Bureau national. Bonjour.
Bonjour.
Et Frédéric Audouy, vous êtes professeur d'économie gestion à l'IMERAC pardon, et président donc du SNEC CFTC pour les départements de Haute-Garonne et de l'Ariège. Bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'être venu ce matin pour nous aider à y voir clair dans ce sujet. Vous vous êtes, on va dire, jusqu'au cou plongé dans cette réforme. On va essayer donc d'accompagner nos auditeurs pour les aider à comprendre un peu de quoi il s'agit, à la fois ceux qui sont eux-mêmes concernés, qui viennent de remplir Parcoursup, qui attendent avec angoisse les réponses pour leurs enfants, qui sont concernés par la réforme du lycée, mais aussi on va essayer de se mettre à la place de ceux qui sont fort loin. Je voulais vous commencer tout simplement, on s'est dit donc cette première partie qu'on allait faire un petit peu de pédagogie sur la réforme du lycée. Commencer par ce qu'on trouve comme première remarque sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Au moment où il s'adresse aux parents ou aux élèves, leur disant « Vous vous demandez peut-être pourquoi cette réforme du lycée, pourquoi faut-il changer ?» Et il y a cette phrase « Le diplôme du bac doit retrouver sa force et représenter un vrai tremplin pour la réussite des études supérieures. » Alors, quel est votre sentiment, peut-être à vous trois, pour commencer sur ce sujet? Est-ce qu'une réforme était nécessaire, Anne-Sophie Naudet-Langlois?
Une réforme était nécessaire. Je ne sais pas si je pourrais encore vous répondre. Je manque de recul, là. On est en plein dans l'organisation et la mise en place, justement, pour la rentrée prochaine. Ce que l'on voit, nous, c'est que l'élève va avoir la possibilité de choisir, quand même, de se spécialiser dans trois matières pour le niveau première. Et puis après, d'en laisser une pour le niveau terminal. Donc ça, effectivement, ça permet de travailler son orientation de manière plus importante des lycées.
Dominique Carsac, on va faire un petit tour de table. Quel est votre sentiment? Fallait-il retrouver la force du lycée, en faire un vrai tremplin pour la réussite dans les études supérieures? Est-ce que c'était un enjeu profond pour l'éducation nationale?
Il y a des années que nous demandons à ce qu'il y ait une refonte qui est une réforme sur les lycées, hein, donc on ne va pas dire maintenant qu'on n'était pas pour. Et effectivement, comme le disait Madame Langlois, c'est quand même beaucoup mieux de pouvoir faire un choix par rapport à ses appétences, que l'orientation soit basée sur l'appétence du jeune, en fait. Voilà, en fait, en gros, pourquoi nous, on était partisans d'une réforme.
Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un manque de spécialité, quelque part, parce qu'il y avait déjà une forme de spécialisation, en fait. Quel était exactement l'enjeu précis?
Disons que jusqu'à maintenant, il y avait quand même une filière qui était prédominante. Le bac S était quand même la plus valorisante. Et pouvant déboucher sur le fait que des autres filières, ça va rééquilibrer un peu toutes les filières. Et je me répète, mais que le jeune puisse s'orienter sur l'appétence, c'est quand même très important, parce qu'en seconde, on ne sait peut-être pas obligatoirement ce qu'on va faire dans la vie, mais on sait au moins ce que l'on aime. Et donc c'est important de pouvoir s'orienter par rapport à ses choix du cœur.
Frédéric Audouy, quel est votre sentiment? Y avait-il urgence et fallait-il une réforme? Et est-ce que au SNEC CFTC, on poussait en ce sens depuis aussi des années?
Alors c'est vrai qu'il fallait une réforme, au moins, vous parliez du supérieur, au moins pour essayer de mettre les compétences des élèves en adéquation avec les compétences attendues dans l'enseignement supérieur. Ça fait plusieurs années que les collègues de l'enseignement supérieur se plaignent, entre guillemets, hein, d'un problème de niveau, de méthode de leurs nouveaux étudiants. Donc c'est vrai que cette réforme va accentuer au niveau des programmes.
De niveau de méthode, vous pouvez préciser, c'est-à-dire que, parce qu'on peut imaginer que les élèves étaient déjà calés et qu'on leur apprenait à travailler.
Il y a énormément de déchets en première année dans l'enseignement supérieur.
De déchets, c'est-à-dire
des problèmes d'échecs. D'orientation, des changements en cours d'année, de l'abandon, du redoublement. Donc c'est vrai qu'il fallait, il fallait trouver une solution. Voilà. On peut se dire qu'en proposant vraiment des vrais choix aux élèves, ils pourront peut-être mieux s'orienter. Et également, on en parlera après, du contenu des programmes, qui est peut-être plus exigeant et qui va peut-être davantage préparer les élèves à l'enseignement supérieur. Avec également, des nouvelles épreuves, comme le grand oral, peut-être, qui va les faire gagner en autonomie et en aisance, qui sont des compétences requises pour l'enseignement supérieur.
En tout cas, sur le site du ministère de l'Éducation nationale, la phrase juste après, c'est « Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, 61% des étudiants échouent en licence ? Ce n'est pas rien, c'est plus de la moitié des étudiants inscrits à l'université après le bac. » Donc, preuve que c'était qu'il y avait réellement un enjeu. Alors, si on doit essayer de faire, la réforme du lycée pour les nuls, donc il faut préciser qu'il y a un tronc commun et après la possibilité de choix de spécialité, que ce tronc commun, donc, par rapport à aujourd'hui, est réduit, si j'ai bien compris. Il y a dans ce tronc commun, donc pour les élèves donc de première et de terminale, le français, l'histoire géo, l'enseignement moral et civique, les langues vivantes, le sport, la philosophie et puis un enseignement scientifique. Anne-Sophie Naudet-Langlois, qu'est-ce que vous apporteriez comme précision à cette courte présentation ?
Alors pour le tronc commun, oui, il va représenter 16 heures. Hein, hebdomadaire, et ensuite s'ajoutent les 3 fois 4, 12 heures de spécialité sur le niveau première. Et 12 heures en terminale, c'est-à-dire 2 fois 6 heures.
Sachant qu'aujourd'hui, les élèves étaient à combien d'heures par semaine ?
Alors, ça dépendait des séries, en fait, et des heures aussi, des options, des heures d'accompagnement. Donc, c'est difficile, en fait, de comparer...
Mais à la louche, un élève de première et terminale avait combien d'heures de cours en tout ?
À la louche,
entre 25 et 30 ?
Voilà, c'est ça. Hein.
Voilà, donc 16 heures en première et 12 heures...
Non, 16 heures plus 12.
16 heures plus 12.
Donc, c'est pas.
16 heures pour le tronc commun, j'entends.
Voilà, 16 heures pour le tronc commun.
Après, ils avaient quand même un petit peu plus d'heures actuellement.
Un tout petit peu plus d'heures, mais c'est vrai que c'est.
On va tomber à 28 heures en première, 27h30 en terminale, sans option supplémentaire. Ouais. C'était quand même un petit peu plus actuellement.
Alors, ce qui frappe quand on regarde, c'est que ce tronc commun, on se dit, en effet, il n'y a pas les maths. On a l'impression, du coup, d'une réforme du lycée qui oriente vers... dont le but serait aussi de faire des élèves français, des élèves qui auraient un peu plus de connaissances ou qui auraient travaillé leurs humanités, comme on dit. Français, histoire géo, langue vivante. Alors, certes, il y a le sport et l'enseignement scientifique, mais philosophie, histoire français, enseignement civique, tout le monde va avoir ça en tronc commun. Est-ce que c'est un des autres buts de la réforme, de casser cette hyper spécialisation sur les matières scientifiques, ou en tout cas cette part belle faite aux matières scientifiques en France?
Vous oubliez le numérique aussi. En seconde, il y a un enseignement numérique.
Est-ce que c'était un des buts de la réforme aussi?
Alors, je pense que l'enseignement des mathématiques, en fait, va être vu différemment. Donc, l'élève qui veut se spécialiser en mathématiques aura, par exemple, la possibilité en terminale d'avoir 6 heures de spécialité mathématique plus 3 heures de mathématiques expertes, donc 9 heures. Actuellement, un terminal S, par exemple, il avait 6 heures de cours, et s'il prenait l'aspect maths, il avait juste 1 heure et demie en plus. Donc, un élève qui a envie de... Donc, je ne pense pas que les maths soient, plus mis à l'honneur. Hein.
C'est-à-dire qu'un élève de S avait déjà du français, de l'histoire géo, de l'enseignement moral et civique, des langues vivantes et de la philo.
Exactement la même chose. Hein. Sauf que là, il a la possibilité. L'idée aussi, c'était justement d'augmenter un petit peu le niveau en maths pour qu'un élève qui puisse se spécialiser en classe préparatoire, par exemple, scientifique, ait plus d'heures de maths avant. Ce qui sera le cas pour celui qui aura choisi cette spécialité. Effectivement, cette réforme permet à un élève moins scientifique de ne plus choisir, de ne plus se voir, entre guillemets, imposer les maths en première.
Donc ça, c'est pour le tronc commun. On avance, hein, et puis on regardera un petit peu tous les sujets qui fâchent en deuxième partie. Après, des spécialités, donc il y en a 12, c'est ça ? 12 spécialités. Alors, est-ce qu'on va toutes les citer? Je ne sais pas, mais on va en citer quelques-unes.
Oui.
Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, humanité, littérature et philosophie, SVT, numérique et sciences informatiques, maths, sciences de l'ingénierie, art, histoire des arts, théâtre, théâtre, art plastique, pardon, art du spectacle, sens de l'ingénierie, sciences de l'ingénierie. Qu'est-ce que vous voudriez ajouter peut-être?
Les
comme,
langues aussi.
Comme précision.
Les langues. Alors,
les langues.
Petite précision quand même, il y a 12 spécialités. Mais 7 uniquement sont garantis. C'est-à-dire que dans les établissements classiques, ils auront au moins 7 spécialités. Voilà.
Que classique de centre, attention, de ville, oui, hein, de parce ville, que je ne suis pas sûre que les collègues.
Chaque lycée a comme obligation d'avoir au moins 7 spécialités.
Non.
Après, oui, sont garantis. La phrase exacte, c'est 7 spécialités sont garanties dans un périmètre raisonnable.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un établissement pour en avoir 5 ou 6. Et la sixième ou la septième serait faite dans un établissement voisin.
Dans un
voisin.
Autre établissement.
Alors, périmètre raisonnable.
Donc, périmètre raisonnable, ça va être l'objet d'une discussion.
Deux stations de métro, mais dans l'Aveyron, deux stations de métro, c'est compliqué.
Voilà, surtout quand on est dans le Rouergue et qu'entre les deux stations de métro, il y a une ville et 15 collines. Donc ça, c'est pour les spécialités, on y reviendra. Les autres grandes modifications, c'est donc la manière de contrôler. Donc c'est le fameux bac, on dit, qui disparaît, cette institution française, puisqu'aujourd'hui, les élèves donc, seront contrôlés, le passage de la terminale à l'enseignement supérieur sera pour 40% le fruit du contrôle continu et pour 60% le fruit d'un examen final. Alors 60% du contrôle par contrôle continu, qu'est-ce que ça veut dire exactement, Anne-Sophie Naudet-Longuin?
Alors le contrôle continu, alors faut rentrer après techniquement, sur le niveau première, il y aura deux évaluations en cours d'année avec une banque d'épreuves qui va sortir là je crois au mois de juin selon les matières, et donc les enseignants devront choisir un sujet pour le lycée qui sera pas forcément d'ailleurs corrigé par le qui ne sera pas corrigé par le prof. Donc contrôle continu.
Donc deux examens en première et en terminale.
Et en terminale, il y aura aussi un contrôle. Alors après, ça dépend de quelle spécialité. Enfin, et en terminale, il y aura aussi un contrôle continu. Ouais.
Donc pour le tronc commun, comme pour les spécialités, des contrôles continus en première et en terminale.
Voilà.
Et afin, donc, alors j'ai vu que donc, les bulletins scolaires seraient pris en compte à hauteur de 10%
dans les 40%.
Dans cette note. Et donc les 60%, alors qu'est-ce que c'est que cet examen final? En quoi va-t-il consister?
On n'a pas beaucoup j'avoue qu'on n'a pas beaucoup d'informations.
On vous sent par moment un petit peu chancelant parce que vous n'avez pas beaucoup d'informations, justement.
On a quelques informations sur la première, hein, heureusement, parce que ça démarre prochainement, mais la terminale, c'est encore un petit peu flou. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y aura donc 4 épreuves finales. Donc les deux épreuves écrites de spécialité, les deux spécialités que l'élève aura choisies.
Donc pour rappel, 3 spécialités en première, 2 spécialités en terminale.
En fait, en première...
Qui peuvent être différentes ou est-ce qu'on est censé choisir les mêmes entre la première et la terminale?
Oui.
Voilà,
d'accord, on ne peut pas changer.
Oui. Ouais. Non.
On en enlève juste une.
Ça va être vraiment...
Vraiment à la marge, ouais. Voilà, c'est vraiment exceptionnel pour changer. Donc,
deux épreuves écrites sur les spécialités.
Voilà, puisque l'élève fait 4 heures fois 3 spécialités en première, il fait 6 heures fois 2 spécialités en terminale, donc deux épreuves écrites sur ces deux spécialités. Donc, c'est deux matières de prédilection. Hein. Il y aura l'épreuve écrite de philosophie pour tout le monde.
On attend la terminale.
Voilà. La terminale. Et ensuite, il y aura ce grand oral.
Alors, le grand oral, expliquez-nous. Qu'est-ce que vous en savez? En quoi va-t-il consister?
Un projet que va présenter l'élève.
Qui portera sur les spécialités étudiées.
Ouais. De préférence bidisciplinaire, ai-je vu aussi.
Qu'il aura préparé depuis la première. Hein. Donc, deux parties, une présentation du projet. Voilà. Et puis, après, une analyse où il va mobiliser les connaissances acquises au cours de sa scolarité. En lien, bien sûr, avec ses spécialités choisies. Donc, si c'est plutôt sur les sciences, ça sera quelque chose de scientifique.
Dominique Kersak, vous vouliez apporter une précision?
J'entends ce que dit Frédéric. Ça va, comme toute modification, entraîner une complication d'organisation. Mais le grand oral et le contrôle continu, ça fait des années que l'on demande à ce que ça soit mis en œuvre, parce que c'est quand même un sacré avantage. Il ne faut quand même pas oublier que les jeunes actuels auront à peu près 4 métiers dans leur vie, auront sur des métiers qu'on ne connaît pas au moins à hauteur de 40%. Donc je pense que ça peut aller que dans un bon sens, avoir plus de contrôle continu et les préparer à un grand oral. Même si j'entends, il y a des problèmes d'organisation, effectivement, comme à chaque grand changement. Quoi.
Si vous voulez bien, on refera part de toutes les critiques à la fin. On essaie juste de ne pas perdre les gens en cours de route. Alors si on doit les tenir par la main avant cette pause, deux, trois autres précisions ai-je lues sur le site de l'Éducation nationale. Donc de nouvelles options voient le jour à cette occasion, ça peut-être qu'on y reviendra. Les programmes ont été revus, vous dites que les programmes de première ont été publiés. J'ai noté deux autres choses, surtout un meilleur accompagnement des élèves en classe de seconde. Donc, semble-t-il, vous seriez tous censés mettre le paquet sur ce sujet et serait préconisé 1h30, ai-je vu, d'accompagnement personnalisé pour chaque élève, chaque semaine, Anne-Sophie Naudet-Langlois, est-ce que j'ai bien lu ?
Alors, à Sainte-Marie-des-Champs, on l'a annualisé. Par exemple, sur le niveau seconde, on fait de la remédiation en français et en maths jusqu'en janvier.
Remédiation, c'est-à-dire que
suite au test de positionnement que des élèves passent en début d'année, qui est aussi un changement de la réforme, on va les accompagner.
Alors, préciser juste ce test, c'est quoi du coup ?
C'est un test qui vise à évaluer les élèves en début de seconde, en français et en maths principalement.
D'accord. Donc la remédiation, c'est quoi ?
C'est accompagner l'élève, proposer des heures un petit peu d'accompagnement en fonction de leur niveau, voilà.
Mais c'est une manière en fait de les aider à rattraper le niveau, c'est pas l'accompagnement.
Cet accompagnement par matière fait partie de l'accompagnement qui est préconisé, et ensuite de janvier à la fin de l'année, on les accompagne à l'orientation. Donc là, on a mis en place tout un dossier pour chaque élève qui est dématérialisé, qui est accessible sur leur tablette. Et donc, ils travaillent l'orientation. Donc, on part de la connaissance de soi et on va jusqu'au choix des spécialités.
Donc, il faut entendre l'accompagnement. C'est à la fois une aide à l'orientation et aussi...
Une aide dans les matières, enfin...
On va faire une première pause musicale, à moins que vous ayez un autre grand trait de la réforme à présenter. Avant...
Juste une précision.
Oui.
L'accompagnement existait déjà actuellement. En seconde, actuellement, il y a des heures d'accompagnement personnalisé.
Dans les mêmes proportions.
Voilà. Les élèves sont aussi coachés, entre guillemets, et il y a un travail d'orientation.
Mais il y avait une préconisation déjà d'une heure et demie par semaine ?
Alors la paix, c'est 2 heures par semaine. Ce n'est pas 2 heures consacrées à l'orientation, mais il y a quand même un travail d'orientation en seconde qui se faisait.
Dominique Carsac, une dernière précision.
En ce qui nous concerne, nous, du moins dans l'enseignement catholique, l'accompagnement que l'on avait jusqu'à maintenant auprès des jeunes via notre service ICF de conseil aux familles et BDIO des bureaux d'études d'orientation va être réorienté sur vraiment l'accompagnement aux familles, vu que l'accompagnement des élèves se fait par les professeurs principaux.
Alors, c'est-à-dire, vous pouvez réexpliquer c'est-à-dire que l'accompagnement comprend aussi l'accompagnement des familles. C'est-à-dire qu'il y a un troisième volet, c'est pas seulement l'orientation, le soutien scolaire, mais ça sera aussi l'accompagnement des familles.
En tant qu'association de parents d'élèves, nous allons accompagner les familles. Que ce soit pour leur expliquer la réforme et aussi pour leur expliquer l'orientation de leur enfant, quel choix ils peuvent faire. On n'est pas des conseillers d'orientation.
D'accord, mais ça fait pas partie de là, on présentait la réforme du lycée, ça fait pas partie, c'est comme une conséquence de la réforme du lycée, c'est ce que vous êtes en train de dire.
C'est plus une corrélation qu'une conséquence, puisque c'est une orientation qu'on avait prise, nous, à partir de cette année, et qui correspond et qui tombe bien.
Je crois qu'il y a une demande des familles très forte dans le choix des spécialités. Comment aider les familles à choisir les spécialités ? Je crois que c'est ça, auquel vous faites référence.
On va faire une première pause. Donc, en tout cas, fin du bac, à partir de l'année prochaine. J'ai même vu que les classes de terminale, leur nom serait peut-être changé et qu'il serait envisagé le terme de classe de maturité. Un tronc commun et 12 spécialités. Bref, il y a du remue-ménage. Ça n'est pas sans difficulté et sans question. On fait une pause musicale et puis on vous retrouve pour en discuter.
Exclamat, passion, exclamat, loquendo, joie.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Branle-bas de combat au lycée, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec autour du plateau, pour rappel pour ceux qui nous rejoindraient, Anne-Sophie Naudet-Langlois, professeure de gestion au lycée Saliège à Toulouse et adjointe de direction au lycée Sainte-Marie-des-Champs dans la même ville, Dominique Carsac, parent d'élèves, président de l'appel pardon, pour l'Académie de Toulouse, association des parents d'élèves de l'enseignement libre, pour rappel, et membre du bureau national, et Frédéric Audouy, professeur d'économie et de gestion à l'établissement Limérac et donc président du SNEC CFTC 31 et 09, donc Haute-Garonne et Ariège. Alors, une fois qu'on a essayé de présenter donc cette réforme, on va dire à gros traits, quid donc des nombreuses questions qui se posent. On va commencer avec vous, Dominique Carsac. J'ai lu dans une interview, je crois que c'est l'un des responsables de l'appel, je ne retrouve plus exactement qui est la personne, bref, en tout cas, un de ces responsables disait « Le bac modulaire sera le moyen d'en finir avec la suprématie de la filière S ». C'était ma première réaction, moi qui suis extérieur, en ayant l'impression qu'on allait transformer le lycée en un lieu d'apprentissage d'abord des humanités. Est-ce que ça a été un des grands buts de cette réforme, et est-ce que le rendez-vous est à la hauteur des attentes?
Je pense que l'interview que vous faites référence, c'est celle de Gilles Demarquet, qui est donc le président national de l'appel. Et effectivement, hein, ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure. C'est jusqu'à maintenant, le bac S était quand même le bac principal. Il fallait faire ES pour avoir la porte ouverte sur différentes orientations. Et actuellement, il va y avoir un rééquilibrage avec les différentes spécialités. Le bac, il ne faudra pas obligatoirement faire ES pour pouvoir avoir accès à telle ou telle orientation.
Alors pourquoi? Expliquez-nous. Qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme qui fait que... Parce qu'on se dit aussi qu'on peut en effet faire un autre choix, mais quand on présente une école d'ingénieurs, les attendus seront les mêmes à l'arrivée.
Les attendus seront peut-être les mêmes à l'arrivée, même certainement, mais il y a différentes façons d'y aller. En fait, certes, c'est important de savoir où on va, mais on n'est pas obligé d'y aller à la même vitesse et par les mêmes routes pour arriver au même endroit. Et donc, le fait de pouvoir ouvrir à différents... à mon avis, il y aura différents élèves qui pourront... intégrer les écoles d'ingénieurs, et pas obligatoirement que des élèves qui avaient des très très bonnes notes en maths ou en sciences.
Alors j'ai lu donc comme réaction parmi les nombreuses réactions syndicales, donc le SNES FSU, donc premier syndicat de l'enseignement public, qui dit qu'un tiers des élèves du lycée général ne recevraient plus donc d'enseignement dans cette discipline, dans les maths. Et en même temps, j'ai lu par ailleurs que aujourd'hui en fait les filières se reconstituaient d'une manière déguisée, puisque en choisissant donc parmi les options des options en maths, au final ça revenait un petit peu au même. Alors Frédéric Audouy, qu'en est-il?
Bon, déjà, ne pas faire de maths, il y avait déjà des élèves qui ne faisaient plus de maths au lycée. Hein. Par exemple, ceux qui faisaient la filière L avaient la possibilité de ne pas prendre les maths. Donc, on peut faire des choses en dehors des maths dans la vie, heureusement. Hein. Et c'est vrai que là, on est au tout début de la réforme, on manque de recul. Par sécurité, je pense que les familles et les jeunes reconstituent un petit peu artificiellement les séries. Et c'est vrai qu'on verra ça l'année prochaine, hein. Mais je pense qu'on va avoir beaucoup de choix de triplettes. Maths, SVT, physique.
Alors triplette, expliquez juste ce que c'est.
Triplette en première. En première, le jeune doit choisir trois spécialités. Beaucoup de jeunes vont choisir maths, SVT et physique. C'est sûr, par sécurité. En se disant, au moins avec ça, comme avec l'ancien bac S, je vais m'ouvrir davantage de portes. Et si je veux faire des grandes écoles, des classes prépa, des écoles d'ingénieurs, eh bien au moins avec ça, je joue la sécurité. Ça, je pense que ça va être le biais... là, de ces premières années.
Alors, qu'est-ce que vous observez juste pour le département de la Haute-Garonne et de l'Ariège? Quelle est la remontée un petit peu des lycées? C'est-à-dire que, est-ce qu'au final...
Ce jour, il est trop tôt pour le dire. Là, honnêtement, je n'ai pas d'informations, je ne peux pas vous dire, sur l'ensemble des deux départements, combien d'élèves ont choisi telle triplette ou telle autre. Hein. C'est un peu... voilà. Ce qu'on sait, par contre, c'est que les élèves ont été créatifs. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont choisi des triplettes un peu différentes, hein, puisqu'on a... ma collègue là, qui est à Sainte-Marie-des-Champs, on a plus d'une vingtaine de possibilités. C'est-à-dire que y a eu des triplettes maths, arts, maths, histoire, physique, sciences économiques, avec de l'histoire géo. Voilà. Donc les élèves, quand même, se sont appropriés cette réforme, a priori, hein, et ont joué le jeu de faire des choix vraiment par rapport à leur goût et par rapport à leurs compétences.
Donc, à vous entendre, vous êtes tous les deux, on va dire, satisfaits, prudents quant aux résultats, quand certains de vos collègues ont l'air déjà d'avancer des chiffres, mais vous dites que ça va prendre du temps, si je dois résumer. Est-ce qu'Anne-Sophie Naudet-Langlois, c'est aussi votre sentiment ?
Bah, c'est vrai qu'on manque de recul. Là, on va essayer de... L'objectif pour nous, c'est d'essayer de faire tourner des emplois du temps.
C'est de ne pas mourir au champ de bataille, pour l'instant, c'est ça c'est...
Non, bon. Nous, dès le départ, on a pris la même posture que la réforme, c'est-à-dire qu'on est parti sur les choix de nos élèves de seconde pour organiser l'année de première et les propositions justement de triplettes, là, dont fait référence mon collègue. Donc, on est actuellement à 22 propositions de triplettes. Et donc là, on va essayer de les faire tourner dans l'emploi du temps.
Mais qu'est-ce que vous observez ? Vous observez que massivement, les élèves reconstituent les filières de manière déguisée ou...
Alors, à Sainte-Marie, pas plus que finalement, nous avions trois premières S qui correspondent au même nombre d'élèves actuellement qui ont pris maths, physique, SVT. Après, il y a, je pense, eu des...
Donc on peut se dire tout ça pour ça, quand on
Non,
quand
parce
on
que...
Entend.
Alors, non, par exemple, on a aussi le cas d'élèves qui ont pris, par exemple, maths, physique, art. Qui se posent la question, par exemple, de devenir architecte. C'est bien d'avoir l'art et aussi bien les maths. On a beaucoup d'élèves aussi qui ont fait le choix de ne pas garder les maths. Donc, on a une combinaison...
Beaucoup d'élèves, plus qu'avant, donc, en l'occurrence.
Peut-être un peu plus, oui. Moi, je pense qu'on a au moins... par exemple, on a une triplette qui a été assez demandée, qui est anglais, histoire, géographie, géopolitique et sciences économiques et sociales.
Donc ça, ce qui correspond en même temps.
Le bac ES comprend quand même une dose assez importante de maths. Hein. Il fallait quand même, j'allais dire, pour passer en ES, quand vous étiez en seconde, on ne faisait pas passer des élèves qui n'avaient pas le niveau requis en maths. Là, vous allez pouvoir arriver sur le niveau première sans avoir un niveau en maths. Sans forcément.
Alors, autre question qui vient comme une conséquence, je l'ai entendu de quelques parents d'élèves avec qui j'ai discuté avant cette émission, c'est pour eux, la grande interrogation, c'est qu'il y aurait une absence de concertation avec l'enseignement supérieur, c'est-à-dire faire une réforme du lycée, c'est bien, mais si en effet les exigences sont les mêmes pour les établissements d'enseignement supérieur, au final, on finit en effet par reconstituer ce qui existait déjà. Alors, y a-t-il eu, dans vos différents syndicats, que pouvez-vous en dire, Dominique Carsac, y a-t-il eu une concertation avec les écoles d'ingénieurs, de commerce, les facs, pour qu'ils changent aussi un petit peu leurs attendus et leurs examens ?
Nous, déjà, on n'est pas un syndicat, hein, on est une association de parents d'élèves, mais nous, du moins, on a été concertés à chaque fois qu'il y a eu question sur la réforme des lycées, au même titre que les autres organisations. Hein. Certes, je pense que ce gouvernement travaille peut-être différemment des gouvernements précédents. Nous, on a toujours travaillé avec différents gouvernements sur toutes les réformes. Et nous, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été concertés. On a été concertés...
Alors vous, l'appel, même à question portée sur les établissements d'enseignement supérieur. Est-ce qu'ils ont été consultés ? Est-ce qu'ils ont fait partie de la réforme ? Parce que, en effet, si on modifie l'antichambre et que la chambre est toujours la même, ça n'a pas d'effet.
Bon, il faudrait leur demander plus précisément à eux. Peut-être que Frédéric peut plus
répondre à ça. Vous n'avez pas du tout entendu cette critique et vous ne savez pas, en fait ?
Non, honnêtement, moi, cette critique, elle ne m'est pas revenue.
D'accord, mais vous savez pas s'ils ont été consultés. Frédéric Audouy, qu'est-ce que vous pourriez dire ?
Si, c'est vrai qu'on... C'est pas forcément une critique, mais en tout cas, c'est une crainte. En se disant, voilà, aujourd'hui, le recrutement, par exemple, pour une école d'ingénieurs ou une grande école de commerce, se fait essentiellement sur les sciences, les maths. Comment ça va se passer dans deux ans ? Parce qu'il n'y aura plus ces bacs-là. Alors, on a un petit peu de temps, puisque l'année prochaine, la réforme attaque en première. On a encore quand même un an pour la terminale. Par la force des choses, les établissements d'enseignement supérieur vont devoir s'adapter. Ils vont avoir devant eux une diversité de profils. Ils ne pourront plus recruter de la même façon. C'est-à-dire qu'actuellement, on recrute en regardant les dossiers, on fait des scorings, on prend les notes des élèves, on fait des moyennes, etc. Ils vont avoir devant eux des élèves qui auront fait des parcours différents. Ils seront obligés de s'adapter. Et on voit que là, il y a déjà des adaptations. On voit par exemple, je ne sais pas si vous avez su, Sciences Po va arrêter son concours. Donc on voit bien que les écoles, quand même... réfléchissent à leurs modalités de recrutement parce que derrière, ils veulent aussi, il y a un objectif de diversité, d'ouvrir leur école à un plus grand nombre, mais aussi, ils ne sont pas toujours satisfaits de leur recrutement. C'est-à-dire qu'en recrutant uniquement sur des critères quantitatifs, avec des profils un peu tous identiques, voilà, tous les élèves avaient le bac S, 18 en maths, etc., ils s'aperçoivent que derrière, c'est pas satisfaisant. D'accord. Donc, ils vont prendre le train en marche. Aujourd'hui, c'est peut-être pas encore le cas, mais il y a encore un petit peu de temps parce que la réforme démarre juste là, en première à la rentrée.
Anne-Sophie Nollet-Anglo, on imagine qu'il y a des parents qui vous ont posé cette question.
Alors, l'enseignement supérieur a quand même été concerté avec la mise en œuvre de Parcoursup, puisqu'ils ont, chaque formation, en fait, a communiqué des attendus. Par exemple, je sais pas, vous rentrez en licence de droit, donc l'attendu, c'est de savoir s'exprimer correctement à l'écrit, de faire preuve d'analyse, de prise de recul par rapport à un texte. Donc il y a des attendus, et que ça soit au niveau de l'université, comme au niveau des formations dites sélectives, comme les BTS, par exemple. Donc,
après, j'ai lu qu'il y avait 15 000 établissements, je crois, de l'enseignement supérieur qui faisaient partie de Parcoursup, mais qu'il y en avait encore 9 000 qui ne passaient pas par Parcoursup, qui avaient en fait leur système de sélection propre encore.
Oui, mais de plus en plus, c'est vrai que je pense que ce nombre va se réduire. Toutes les formations sont vivement incitées à rentrer dans Parcoursup.
D'accord.
Et donc, à terme, je pense que...
Donc, vous croyez tous, en fait, quelque part, à la force du réel, c'est-à-dire, comme les lycéens auront d'autres profils, l'enseignement supérieur sera bien obligé de s'adapter, c'est
forcément,
ça ?
Forcément. Bah,
oui, mais par exemple, si on prend un cas concret, les classes préparatoires HEC, pour entrer dans des écoles de commerce, actuellement, elles sont scindées en deux catégories, les HEC, ECT, enfin même trois, puisqu'il y a les bacs technologiques aussi qui peuvent y rentrer. En fait, il y avait certaines classes HEC donc, qui recrutent les bacs ES, d'autres qui recrutent les bacs S. Comme les séries disparaissent, typiquement, ces classes prépa vont devoir réorienter leurs attentes.
Autre sujet, ai-je lu, c'est, alors là certainement que vous ne direz pas le contraire, Anne-Sophie Nollet-Anglois, c'est le casse-tête en matière d'organisation pour les lycées. Alors racontez-nous un petit peu vos nuits blanches. Donc vous avez dit que dans le lycée dans lequel vous étiez donc adjointe de direction, il y avait donc 22 spécialités. Où ça
22
fait
triplettes.
22 triplettes, donc possibilité de choix dès la première, donc de 3 spécialités. Mais qu'en fait il faut multiplier par combien d'élèves?
Ah non, bah là c'est 22 sur 250 qui ont choisi ces 22.
D'accord.
Donc après, ils sont répartis. Y a, par exemple, j'ai une combinaison où j'ai deux élèves. Mais j'en ai une autre où je vais en avoir 70.
Alors j'ai compris que le casse-tête, c'est que tout le monde n'avait pas forcément les forces pour proposer autant de spécialités que vous. Vous disiez tout à l'heure que c'était combien? 7 minimum ou 12?
C'est ça, c'est
à 7. Toulouse, à Toulouse, voilà, c'est 7. Et nous, par exemple, nous avons l'aspect art, donc on en a 8.
C'est-à-dire ça dépend des académies. Certaines académies sont tenues à plus de spécialités que d'autres ou...
C'est une question de moyens. Ouais. Parce que quand le rectorat vous alloue un nombre de spécialités, derrière, il faut qu'il vous alloue le nombre de profs à mettre en face. Donc on revient sur des questions budgétaires. Tous les établissements ne pourront pas avoir les 12 spécialités.
Alors comment on s'y prend dans ces cas-là? On fonctionne par groupe de lycée, on s'organise. Parfois, il va falloir faire 20 km entre deux cours pour arriver à avoir sa spécialité art qui est dans un lycée à 15 km.
Alors pour le moment, vraiment, on n'a pas de recul puisque le rectorat, pour le moment, a donné la possibilité à tous les lycées. Enfin, moi, je parle pour Toulouse. Je pense que ce n'est pas le même cas dans des villes.
Voilà, on s'excuse pour tous ceux qui sont un peu loin hein, et entre autres en campagne, mais on fait avec
les lycées toulousains ont au moins les 7, voire certains 8,
8-9,
voilà, en fonction des établissements. Après, l'année prochaine, on verra. Parce que si vous ne remplissez pas une spécialité, le rectorat va peut-être dire, bon, bah, je sais pas, pour l'enseignement privé, bah, vous allez vous arranger en réseau. C'est-à-dire que Sainte-Marie-des-Champs, voilà, vous aurez l'art. Et voilà, vous irez accueillir des lycéens d'autres établissements privés.
Dominique Carsa, quid des difficultés? J'ai compris que c'était quand même une des difficile.
Une des solutions sur ce sujet, au moins pour nos territoires un peu ruraux, ça sera peut-être aussi tout ce qui est visio et cours en visio, comme ça se fait déjà à la fac. Il y a parfois un prof pour différents amphis. Les moyens techniques actuellement permettent de faire ça. Donc des établissements pourront effectivement se mettre en réseau, pourront aussi avoir une spécialité sans avoir obligatoirement physiquement le prof en face.
Donc c'est pas un problème, il n'y a pas d'inquiétude
du côté de
la paire.
Je dis pas que c'est un problème, je dis qu'il faut chercher des solutions à tout problème. Nous on a quand même envie que cette réforme elle avance, donc on cherche le maximum de solutions pour que tous nos différents territoires, parce qu'on parle de l'Académie de Toulouse, mais l'Académie de Toulouse c'est aussi bien l'Ariège que Luchon ou le fin fond de l'Aveyron, ça n'a rien à voir avec le centre-ville de Toulouse hein. Il faut qu'on apporte des solutions à tout territoire.
Frédéric Oudouy, quid de ce casse-tête? Est-ce que vous avez des remarques ou des inquiétudes du SNEC CFTC?
C'est que l'intérêt de cette réforme, c'était justement ce libre choix des élèves. Voilà. Après, ce choix va être confronté à la réalité. C'est-à-dire dans les établissements où l'élève n'aura pas sa spécialité rêvée, mais il n'a pas 10 000 possibilités. Hein. soit il fait une croix dessus, il en choisit une autre, soit il change de lycée. Mais après, c'est pas toujours possible de changer de lycée. Dans le
et il peut pas, entre deux cours, monter sur son vélo quand il est en ville.
Alors,
quand
c'est en ville et que c'est pas très très loin, c'est jouable. Mais ça veut dire qu'en amont, les lycées se sont entendus, qu'on a prévu un temps de route aussi, c'est-à-dire que l'élève, ben, il a au moins une heure avant, après, pour se déplacer.
Mais ce sont des questions qui se posent aujourd'hui.
Clairement, c'est des questions qui se posent, mais on n'a pas de visibilité. Et je pense que la faisabilité est quand même faible. Alors après, Dominique parlait de visioconférence. Je pense que oui, ça sera forcément dans des territoires un peu éloignés. Ça sera le seul moyen. Après, on voit déjà ça dans les établissements. Hein. Les établissements freinent les choix des élèves en leur disant, voilà, il y a des triplettes que vous ne pourrez pas prendre. Et donc, on biaise la réforme. On dit aux élèves, par exemple, si vous voulez choisir maths, sciences économiques et arts, eh ben, c'est pas possible.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une vraie, entre guillemets, discrimination dans ces cas-là entre ceux qui vivent en ville, par exemple, et ceux qui vivent en campagne ? Il va y avoir, en fait, une réforme à deux vitesses.
Ah ben bien sûr. Ça a toujours existé. Il y a toujours des lycées qui ont été mieux dotés que d'autres, qui avaient plus d'options, plus d'enseignement de spécialité. Voilà, ça existait déjà avant, mais ça va continuer à exister.
D'accord, donc rien de nouveau sous le soleil sur ce sujet-là. Ça n'aggrave pas la situation.
Il y a toujours le principe de réalité. Derrière, il faut des moyens. Et les moyens coûtent cher. Et donc, on ne peut pas maintenir des spécialités dans tous les établissements pour 3-4 élèves. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, la norme, c'est 36 élèves par classe en lycée. Voilà, c'est beaucoup.
C'est-à-dire, c'était ou ça va être avec
ça
la réforme ?
Ça l'est et ça va le rester. Voilà.
C'était 35, on est passé à 36.
Voilà, 35, 36. Voilà.
Alors, dernière question avant qu'on fasse une deuxième pause musicale, c'est que, donc, en parallèle de cela, donc, il y a la loi de transformation de la fonction publique qui est donc en cours, si je ne me trompe pas, qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et qui est actuellement étudiée au Sénat. Il y a eu des manifestations, donc, entre autres à l'appel donc, du SNEC CFTC, mais pas que. On a entendu parler donc, des manifestations des profs de l'enseignement libre et de l'enseignement public. Est-ce que derrière, ça demande plus de travail aux enseignants, de travailler autrement et est-ce que vous allez devoir faire plus avec moins, Frédéric Audouy ?
Alors, tout à l'heure, Dominique parlait de concertation. C'est vrai qu'il y a eu de la concertation, mais derrière, on n'a pas été attendu. Il faut savoir que le Conseil supérieur de l'éducation, qui est une instance multipartite, 97 membres, des enseignants, des inspecteurs, des parents d'élèves, des collectivités territoriales, ont voté contre la réforme Blanquer, ont voté contre tous les programmes.
97% d'eux, pardon.
Non, pardon, 97 membres.
Hein. D'accord.
97 personnes qui s'occupent de ça, hein, donc qui donnent un avis, c'est un avis consultatif.
Dont le SNEC CFTC.
Voilà, oui.
Pourtant, vous n'avez pas l'air tout à fait contre la réforme depuis le début de l'émission, donc.
Alors.
Pourquoi vous avez voté contre ?
On pointe des problèmes, hein, voilà, et notamment sur les programmes. Nous étions vraiment contre les nouveaux programmes. Voilà, toutes les associations de professeurs sont contre les nouveaux programmes, hormis les enseignants de physique-chimie, qui eux, trouvent que le programme sont convenables. Hein.
Donc la réforme, voilà. Ça allait, mais le problème, c'était les programmes, en tout cas pour le SNEC CFTC.
Voilà. Oui, même si sur la réforme, il y a aussi beaucoup de choses à dire. On a parlé d'un problème de moyens, on a dit que les programmes allaient se densifier, mais en face, il y a moins d'heures de cours. Comment est-ce qu'on va faire ? Problème de compétences, vous avez des nouvelles matières, sciences du numérique, biologie, écologie. Allons-nous être formés ? Est-ce qu'il va y avoir des recrutements ? Voilà, c'est des questions pratiques qui se posent. Après, sur l'esprit de la réforme, oui, on peut dire que c'est plutôt positif. Mais après, voilà, il y a les détails, la mise en œuvre. Et là, nous avons des craintes.
Qu'est-ce que vous pourriez dire les uns les autres, même si vous n'êtes pas représentants syndicaux ? Va-t-il falloir faire plus avec moins ? Est-ce que c'est une inquiétude du côté des profs, Anne-Sophie Naudet-Langlois ?
Bah, y a une inquiétude dans certaines matières, sur le choix qui va être fait par les élèves. Notamment les profs de SVT s'inquiètent, par exemple. Un élève qui aime les sciences va prendre en première maths, physique, SVT. Mais il risque, pour peut-être un nombre important d'entre eux, d'abandonner la SVT en terminale.
Donc il n'y aura plus besoin de profs en SVT ou moins besoin.
Peut-être moins d'heures pour les profs de SVT. Donc dans certains établissements, ça se répercute en perte d'heures.
Et ce qui veut dire que l'enseignant sera obligé d'enseigner dans une autre matière, du coup, ou en gros,
ah
on
non,
lui versera le même salaire avec
moins
d'heures de cours.
Un enseignant en perte d'heure et non.
Non,
ça, Frédéric répondra mieux que moi.
On est payé à l'heure faite, donc voilà. Si un prof des SVT perd 3 heures parce qu'en terminale, il y a moins d'élèves, il est payé 3 heures à moins.
Mais c'est marginal comme difficulté, ou est-ce que ça peut être généralisé ?
On va le découvrir, mais forcément, il y aura une part d'inconnu, puisque chaque année, on va rebattre les cartes. On ne sait pas quelles seront les spécialités prises en première, quelles seront les spécialités abandonnées en terminale. Donc un petit peu, les collègues vont être un peu sur un siège éjectable et dans l'incertitude en se disant, voilà, cette année j'avais un temps plein, est-ce que l'année prochaine j'aurai plein d'heures sup, Est-ce qu'on m'obligera à faire plein d'heures?
Parce que de toute façon, avant, ces spécialités couraient pour la première et pour la terminale. Donc, oui, ce qu'on entend, avant, c'est que pour certains, il va y avoir un trou d'air en terminale, c'est ça?
Voilà. Avant, on avait de la visibilité. Les programmes étaient prévus. Enfin, on savait combien d'heures on faisait en première, combien d'heures en terminale, combien d'heures il y avait en ES, en S, en L. On n'était pas dans l'incertitude. Le collègue qui avait, on appelle ça un service, hein, voilà, il savait qu'il allait faire 6 heures en première, 6 heures en L, 3 heures en terminale. Voilà. Il y avait une visibilité. Là, maintenant, c'est l'inconnu. On ne sait plus les classes que l'on aura, le nombre de classes, est-ce qu'on aura son temps plein. Donc, pour les lycées toulousains, on peut se dire, bon, ben, j'irai faire les heures qui me manquent.
Pour les lycées des grandes villes.
Voilà, ouais. chez le voisin, mais pour les autres.
On va faire une courte pause et puis on va parler un tout petit peu de Parcoursup. De toute façon, j'imagine qu'on aura l'occasion de faire d'autres émissions sur cette réforme du lycée, au moins l'année prochaine, même date, même heure, pour prendre la température avec un peu de recul.
Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Branle-bas de combat au lycée, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau Anne-Sophie Naudet-Langlois, professeure de gestion et adjointe de direction, Dominique Carsac, président pour l'Académie de Toulouse de l'APEL, l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre, et Frédéric Audouin, professeur d'économie et de gestion et président du SNEC CFTC 31 et 09. Alors, j'aimerais qu'on finisse cette émission en parlant un tout petit peu de Parcoursup. On va y aller rapidement. Et une fois de plus, enfin sur ce sujet aussi, on aura l'occasion d'y revenir. C'est donc une application web qui a remplacé donc l'ancien système d'admission post-bac APB. Certains parents, pareil, connaissent ça par cœur. D'autres en entendent parler comme à la fois comme une solution miracle ou alors comme une machine à broyer, comme je le disais en introduction. Avant qu'on aille au commentaire, Anne-Sophie Naudet-Langlois, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette plateforme Parcoursup?
Alors Parcoursup, c'est une plateforme qui vise à proposer des formations de l'enseignement supérieur aux élèves, aux lycéens, aux élèves de terminale. Donc les élèves de terminale ont la possibilité de faire 10 vœux.
À partir de quand ils doivent commencer à remplir?
Au mois de janvier. Cette année, ça a commencé le 20 janvier. Et au 15 mai...
Donc 10 vœux au lieu de 24, c'est ça?
Voilà, 10 vœux. Il y a la possibilité de faire des sous-vœux. Par exemple, vous choisissez un BTS... un BTS, et vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 10 établissements différents. Et ce, sur le plan national.
Voilà, donc on fait ses vœux. Et après, j'ai compris que la différence avec l'APB, c'est qu'on vous répondait...
Vous n'aviez plus à classer. APB, il fallait classer vos vœux. Mettre votre vœu numéro 1, vos numéro 2. Là, vous n'avez pas de classement à faire. Vous avez la possibilité de faire 10 vœux.
Et les réponses viennent pour les 10 vœux en même temps ou progressivement?
Exactement, non. Vous avez toutes les réponses qui arrivent en même temps. Alors, vous avez plusieurs réponses possibles. Soit... vous êtes accepté, Et donc là, il ne reste plus qu'à faire l'inscription administrative et vous acceptez vous aussi d'aller dans cette formation. Soit vous êtes en attente, soit vous êtes refusé.
Alors j'ai compris aussi que dans les vœux, il fallait accompagner maintenant d'une lettre de motivation, c'est ça aussi ?
Voilà, ce qu'on appelle un projet de formation motivé qui est limité avec un certain nombre de caractères. Donc l'exercice est assez difficile à faire pour les élèves. Et voilà, donc effectivement, il y a les bulletins.
Qu'est-ce qu'il y a de mieux par rapport à APB ? On peut imaginer qu'aussi le classement avait la vertu d'exprimer ce qui est prioritaire, non ? Tout simplement.
Voilà, alors ce qu'il y a de mieux, c'est que ça laisse peut-être un peu plus de temps à l'élève pour finalement choisir son orientation. Avant, dès le mois de janvier, vous deviez absolument classer vos vœux, parce que si vous aviez votre vœu numéro 1 qui tombait, qui était positif, bon, bah, ça annulait tous les autres.
On peut avoir oui pour 6 de nos 10 vœux,
voilà,
c'est ça ? Et après,
donc,
vous faites votre
alors,
choix.
Alors, vous ne pouvez jamais rester sur 2 oui en même temps. C'est-à-dire que si vous avez
dès que vous dites oui, c'est fini.
Voilà. Par contre, vous avez la possibilité de rester, de dire bon, oui pour cette formation, mais je reste en attente sur d'autres vœux pour lesquels je suis encore en attente.
Je le fais de manière caricaturale, ouais. Mais si j'ai mis école d'infirmière et Sciences Po, si je dis oui pour l'école d'infirmière, je peux. C'est
alors
fini,
Sciences Po,
faut que
c'est pas encore sur Parcoursup, faudrait. Par exemple, j'ai un IUT et un BTS, et que j'ai eu donc une réponse positive pour le BTS, mais que finalement mon choix c'est l'IUT, je vais dire oui au BTS, mais je reste en attente sur l'IUT. Et ça, alors après, il y a un certain délai. Au début, c'est 5 jours. Après, ça se réduit à 3. Où à chaque jour, en fait, les cartes sont rebattues en fonction des réponses des élèves, des candidats.
Voilà, donc ça, c'est la présentation. Alors, comment se fait le choix ? Il y a une espèce d'algorithme gérant qui... Est-ce qu'on connaît un peu le dessous des cartes ?
Il y a un paramétrage qui est fait du côté de l'enseignement supérieur qui dit, par exemple... Si je prends toujours le cas du BTS, je vais prendre 40% d'élèves qui viendront de bac pro... 30% de bac technologie, je dis n'importe quoi, hein, mais voilà, un certain pourcentage en fonction des séries, hein, puisqu'on, là on parle encore de séries, et ensuite ils classent les candidats en fonction des critères qu'eux-mêmes auront spécifiés.
Alors j'ai cru comprendre aussi que contrairement à Parcoursup APB, qui n'autorisait pas le changement d'académie, là il y avait une certaine souplesse, oui. Même s'il était conseillé d'y aller doucement. Pour les meilleurs bacheliers, il y a donc une forme de priorité, et donc c'était pas 15 000 mais 13 000 établissements d'enseignement supérieur qui sont dans cette grande machine à trier, et 9 000 qui sont à l'extérieur. Comment est-ce qu'on réagit côté parents d'élèves, Dominique Carsac, à ce système Parcoursup, avantages, inconvénients? Y a-t-il là que des avantages ?
Que des avantages, non. Il y a toujours des inconvénients à toute formule. Mais si l'on revient même un peu avant APB, il ne faut pas oublier que fut un temps où on campait devant les établissements, on envoyait nos parents camper pour insérer les grandes écoles. Ça a quand même nettement progressé. Cette année, sur Parcoursup, on a quand même beaucoup moins d'élèves en attente, même s'il reste des difficultés. Hein, mais il y a quand même aussi plus de possibilités pour mettre des accompagnants en ASH qu'on n'avait pas. Ça s'est amélioré de ce côté-là. On a quelques difficultés sur les IFSI, voilà, effectivement, encore à travailler, mais peut-être qu'il faudrait une remise à niveau pour ces matières-là.
Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux, si vous deviez répondre à cette question ?
Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Le principal point, c'est moins d'élèves en attente. Moins d'élèves en attente, c'est pour nous, en tant que parents d'élèves, quoi demander de mieux ?
Est-ce que c'est un système de sélection aussi qui est égalitaire ? J'ai entendu comme critique que, comme c'était un algorithme qui faisait les choix, ça ne tient pas compte en fait du niveau des lycées et qu'on pouvait ne pas être pris parce qu'on est dans un bon lycée et qui note de manière sévère en maths, par exemple, pour une école d'ingénieurs. Frédéric Audouy, est-ce que vous avez entendu cette critique ?
Oui, c'est vrai qu'on a entendu cette critique. Après, bon, faut un petit peu rester prudent, hein. Chaque établissement supérieur... a fait son propre, entre guillemets, algorithme, hein, a mis ses propres critères. Donc, ça, c'est vrai qu'il n'y a pas une grande lisibilité. Ce qui est sûr, comme le disaient mes collègues, c'est qu'il y a vraiment du mieux, hein, notamment, par exemple, sur le tirage au sort, il n'y a plus de tirage au sort. C'était vraiment la pire des méthodes, le tirage au sort. Hein. Donc, il y a encore quelques bugs, notamment des élèves qui ont reçu des confirmations, alors vous êtes pris, puis finalement, le lendemain, on leur disait, vous n'êtes pas pris, bon, ça c'est terrible
un
bug, pour un jeune.
Hein.
Il y a eu des bugs. Mais sinon, globalement, ça marche bien. Les réponses sont très rapides. C'est-à-dire qu'avant, les réponses étaient assez, assez rares. Là, maintenant, vous avez des réponses tous les jours. Tous les jours, l'élève voit son classement sur liste d'attente évoluer. Dès qu'il a une réponse favorable, il a 5-3 jours pour répondre. Donc, c'est vraiment enfin honnêtement, moi je l'ai testé cette année pour ma fille, hein, ça marche très bien, voilà, l'application fonctionne bien. Ensuite,
on a entendu parler du bug pour les écoles d'infirmières, par exemple.
Alors les écoles d'infirmières, le bug, ça a été qu'en fait, les IFSI, hein, donc les instituts de formation en soins infirmiers, n'ont pas anticipé cet afflux de demandes. Cette année, il y a plus de concours, tout le monde s'est trouvé une vocation d'infirmière.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de concours et donc les écoles infirmières étaient intégrées
directement par Parcoursup. Ouais. Donc en fait, c'était très facile de postuler. Et donc, il y a eu un afflux énorme de demandes.
La première demande,
oui, il y a plus de millions de demandes. Donc en fait, les IFSI, certaines n'ont pas pu gérer le flux. C'est-à-dire qu'au lieu, normalement, vous devez ouvrir chaque dossier d'élève et le regarder, le lire les motivations, regarder ses notes et faire un choix. Des IFSI n'ont pas pu le faire. N'avait pas les ressources humaines, matérielles pour le faire, et donc on fait des choix un peu, voilà.
Alors ça devait être plutôt 100 000, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait à peu près 800 000 inscrits, donc ça devait pas être 1 million de demandes pour les élèves. Hein.
C'est un million de vœux, parce qu'en fait les élèves font plusieurs vœux.
Dernière question, puisqu'il nous reste 2 minutes, semble-t-il, il y avait quelque chose qui paraissait être un peu inégalitaire, c'est la lettre de motivation. Certains disent que tout le monde n'est pas armé de la même manière pour faire ces lettres de motivation. Il y aurait même, semble-t-il, des cabinets maintenant qui se montraient pour aider les parents, pour aider les élèves à rédiger les lettres de motivation.
Ça a toujours existé, les accompagnements payants pour l'orientation. Ce qu'on peut dire, non, c'est que ce projet de formation de motivés est lu par les formations sélectives. Qui dit formation sélective, si BTS, IUT, classe prépa. Je ne suis pas sûre que l'université puisse lire des milliers de lettres. Voilà.
Ils n'ont pas lu ces lettres.
Voilà, on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est vrai qu'on se demande au final qui derrière lit tous ses vœux.
Alors, dans l'enseignement privé, les établissements supérieurs, ça je peux vous dire, pour l'avoir fait, lisent les lettres.
Ça bosse.
Voilà.
Voilà, en tout cas, donc des invités qui sont globalement satisfaits, j'ai l'impression, de cette réforme, même s'ils émettent des réserves, mais semble-t-il, là, en partie à la marge. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai au sortir de cette émission. Merci beaucoup d'être venu pour nous faire un petit peu nous décrasser sur cette réforme et nous donner vos points de vue. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Océane Soulier. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.